J'ai une question bien intéressante à vous poser. Croyez-vous que la construction du tabernacle au temps de Moïse illustre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Il y a tellement de détails significatifs dans la construction du tabernacle au temps de Moïse. Tant de belles choses à apprendre afin de mieux connaître notre grand Dieu merveilleux. Voici quelques questions dont les réponses nous seront données par rapport à cette construction. Quelle attitude devons-nous avoir en travaillant pour Dieu? Quelle attitude devons-nous avoir en donnant pour l'œuvre de Dieu? Dans la construction du tabernacle au temps de Moïse, pouvons-nous voir l'œuvre et la personne de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour avoir une bonne relation avec lui? Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner des choses qui vont nous émerveiller, bien qu'elles aient été écrites il y a des milliers d'années. N'est-ce pas que la parole de Dieu est merveilleuse? Demandons à Dieu qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin qu'on comprenne bien sa pensée dans l'enseignement d'aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous ta lumière et fais-nous comprendre tes Écritures. On en a besoin. Dans ce monde où on vit, on a besoin d'être fortifié par ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, ce chapitre traite encore du tabernacle. Dieu a déjà donné les instructions pour sa construction. Maintenant, dans ce chapitre, le chapitre 36 du livre d'Exode, nous voyons la construction du tabernacle. Il est essentiel que les plans et devis de Dieu soient suivis, car le tabernacle est une image de Jésus-Christ. Chers amis, débutons notre lecture. Exode chapitre 36, verset 1er. Betsaleël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Oui, chaque membre de la nombreuse équipe travailla à la construction du tabernacle avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait données. Betsaleël était responsable de l'ensemble du projet. Verset 2. Moïse appela Betsaleël, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Chers amis, notez un élément très important dans le service du peuple pour son Dieu. Si vous ne servez pas Dieu de bon cœur, ne le faites pas. Dieu ne peut pas utiliser ou bénir une mauvaise attitude. Les hommes qui construisent le tabernacle doivent fabriquer des articles de mobilier qui serviront à adorer Dieu. Pour eux, ce n'est pas un travail. Ils ne travaillent pas en regardant continuellement leur montre. Ils ne sont pas syndiqués. Ils ne comptent pas leurs heures pendant la semaine pour arrêter soit 40 ou 35 heures. Ils ne travaillent pas parce que c'est leur devoir ou parce qu'ils doivent travailler. Ils étaient esclaves dans le passé, mais maintenant, ils font un travail d'esclave parce qu'ils le désirent. Leur cœur est dans leur travail. C'est ainsi, chers amis, que nous devons travailler avec Dieu. De bon cœur. Un jeune prédicateur m'a dit un jour, « J'aime bien le ministère, mais je déteste prêcher. » Je lui ai recommandé de quitter le ministère. Ce n'est pas une fonction pour quelqu'un qui déteste étudier et enseigner la parole. Si un prédicateur ne peut pas faire son travail avec enthousiasme, il ne devrait pas être dans le ministère. Le prédicateur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a un jour entendu la prédication d'un de ses anciens étudiants. C'était un travail pénible pour cet homme, un véritable fardeau. Mes amis, si vous ne pouvez pas servir avec vitalité et vigueur, ne le faites pas. Dieu ne veut pas d'individus qui préféraient faire autre chose. Il faut y être consacré. Notez que Bezaliel travaille avec enthousiasme. Il n'est pas en route pour un match de football ou un match de baseball ou une autre activité sociale. Il travaille pour le Seigneur. Vous savez, si les chrétiens se rendaient à l'église le dimanche avec enthousiasme, toute la ville viendrait voir ce qui se passe dans cette église. Ce serait un véritable réveil. Le travail du Seigneur doit se faire dans la joie et le bonheur. Dans Romains, chapitre 14, verset 5, l'apôtre Paul dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est avec un tel esprit qu'il faut servir le Seigneur. Sommes-nous persuadés que nous servons Dieu parce que nous le désirons de tout notre cœur et parce que nous voulons lui plaire avant toute chose? Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul affirme aussi « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile !» Paul désirait ardemment prêcher l'Évangile. Et que dire des 300 hommes qui ont suivi Gédéon à la rivière et qui ne se sont pas penchés pour laper l'eau, mais qui l'ont apporté à leur bouche avec leurs mains tout en surveillant l'approche de l'ennemi? C'est eux qui furent choisis par Dieu. Ces hommes disaient « Où sont les Madianites? Nous voulons régler leur compte !» Les détails de cet épisode sont dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 5 à 7. Nous avons besoin d'un tel enthousiasme dans nos églises aujourd'hui. Nous avons trop de bois morts dans nos églises, trop de chrétiens qui ne font que réchauffer les bancs. Poursuivons notre lecture, versets 3 à 5. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apporta encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Chers amis, je n'ai jamais vu cela ailleurs. C'est la seule fois qu'on a dû demander à une congrégation de cesser d'apporter des dons. Ils ont apporté plus qu'il n'était nécessaire pour la construction et l'ameublement du tabernacle. Au cours de toutes mes années de ministère, je n'ai jamais vu une telle collecte. Verset 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Il faut demander au peuple de cesser d'apporter des offrandes, car il y en avait déjà trop. Cela nous étonne, puisque ce peuple sortait de l'esclavage. Nous aurions cru que les Israélites auraient été peu disposés à se départir du peu qu'ils possédaient. Ils n'avaient jamais rien possédé. Mais le peuple est généreux et il donne avec joie et enthousiasme à l'œuvre de Dieu. C'est avec une telle attitude que vous devriez faire tout ce que vous faites pour servir Dieu. C'est ce que Dieu désire. Dieu veut que nous donnions avec joie. Il y a quelques années, on annonçait dans une église, « Donnez jusqu'à ce que cela vous fasse mal. » Cependant, Dieu dit, « Si cela fait mal, ne donnez pas. » Notre service et nos dons doivent être faits dans la joie. Il semble que dans ce chapitre, nous passons de nouveau en revue les articles du tabernacle. Cela semble être une répétition, mais Dieu nous a donné les plans et devis du tabernacle, mais maintenant, c'est le temps de la construction. Les plans ne suffisent pas. Il faut aussi se mettre au travail. Le peuple débute le travail dans ce chapitre. Versets 7 et 8. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. Ceci était la couverture de tout le tabernacle. c'est la couverture qui allait sur les articles de mobilier lors de la marche dans le désert. C'était la clôture extérieure. Le fainéant auteur nous parle de la justice de Christ. Il nous parle de son caractère et de son œuvre. Le fainéant auteur nous parle de la justice dont Christ nous revêt afin que nous puissions nous tenir en présence de Dieu. Nous devons nous rendre compte que Christ peut pourvoir à tous nos besoins. Il peut nous sauver, il peut nous libérer du péché, il peut nous garder dans ses voies. Le rideau en poil de chèvre, les peaux de bélier et les planches ainsi que leur basse nous parlent d'un attribut de Christ ou d'un élément de son œuvre. Le tabernacle mesurait 30 coudées par 10 coudées et il avait une hauteur de 10 coudées. Il était construit de bois d'acacia et les planches étaient recouvertes d'or. Les planches avaient une coudée et demie de largeur. Vu leur poids, les planches étaient transportées sur des chariots. Cependant, les articles de mobilier étaient portés sur leurs épaules par les prêtres de la tribu de Lévi. Chaque planche était placée verticalement sur une base en argent. Tout le tabernacle reposait sur des bases d'argent, symbole de la rédemption. Des barres tenaient l'ensemble fermement en place. Les Lévites passaient les barres dans des anneaux prévus à cet effet. C'était une construction très compacte. Un rideau séparait les deux parties principales du tabernacle. La plus petite section était le lieu très saint, et la plus grande section était le lieu saint. Tous les éléments du tabernacle illustraient un attribut ou un aspect de l'œuvre de Christ à la croix. Maintenant, chers amis, nous passons au chapitre 37 du livre d'Exode. Nous avons déjà étudié la description du tabernacle. Nous allons lire le texte et rappeler les points saillants. Dans la cour extérieure du tabernacle se trouvait l'autel d'airain et la cuve d'airain. Lorsque vous pénétriez dans le lieu saint, vous pouviez apercevoir 3 objets. Le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Dans le lieu très saint, on plaçait l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Le tabernacle était composé de 3 parties. Il y avait 3 entrées à celui-ci. Il y avait l'entrée de la clôture de lin qui entourait le tabernacle, puis il y avait l'entrée du lieu saint, et finalement l'entrée du lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint, en apportant le sang du sacrifice le jour de la fête annuelle des expiations. Nous verrons cette fête dans le livre de Lévitique. Le prêtre aspergeait le propitiatoire avec le sang. Il y avait 7 articles de mobilier placés de façon à nous donner une belle image de l'œuvre de Christ. L'autel d'airain illustrait la croix de Christ où l'on obtient le pardon de nos péchés. La cuve illustrait le fait que Christ purifie et sanctifie les siens. La cuve est l'endroit où confesser nos péchés et recevoir son pardon ainsi que la purification de ses péchés. Chers amis, nous débutons la lecture du chapitre 37 du livre d'Exode. Nous allons lire tous les versets de ce chapitre. Verset 1er. Betsaléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins, qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier. Une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était 1 coudée et sa largeur 1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés. Pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Le lieu saint est l'endroit où adorer. Le chandelier d'or qui s'y trouve illustre Christ, la lumière du monde. La table des pains de proposition illustre Christ, le pain de vie céleste. L'autel des parfums est l'endroit où prier. Cet autel illustre Christ, notre intercesseur. Dans l'Épître aux Hébreux, l'autel des parfums est placé dans le lieu très saint plutôt que dans le lieu saint, car notre intercesseur est maintenant au ciel. Mais l'autel des parfums est dans le lieu saint, où vous et moi pouvons pénétrer aujourd'hui. Lorsque les croyants désirent adorer Dieu, ils viennent au lieu saint. La confession, la louange, les remerciements, l'intercession, les requêtes sont tous des éléments de l'adoration. Tout cela se fait dans le lieu saint. Si vous voulez la lumière du monde, il faut sortir du lieu saint. Mais pour la lumière du chandelier d'or, il faut pénétrer le lieu très saint. Pour servir Christ, nous ne pouvons pas marcher selon la sagesse de ce monde, mais nous devons nous guider avec et par la parole de Dieu. Oui, chers amis, le lieu très saint illustre Jésus-Christ en présence de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous invite à venir au trône de la grâce. Le propitiatoire illustre cela. C'est là que nous trouvons la grâce et la miséricorde dont nous avons besoin. Il y a un propitiatoire pour les croyants dans le ciel. Lorsque Christ est venu sur terre, non seulement a-t-il accompli la loi en se conformant à l'image du tabernacle, mais il a aussi fait une chose inhabituelle. Le tabernacle est aménagé horizontalement dans le désert. Il était installé sur une surface plate avec ses planches insérées dans les bases posées sur le sol. Mais lorsque Christ est venu afin de donner sa vie en rançon pour nos péchés, il a placé le tabernacle verticalement. La croix était l'autel d'airain sur lequel l'agneau de Dieu fut offert. Il est mort afin de nous sauver. Le lieu très saint est dans le ciel aujourd'hui. Nous ne cherchons pas Dieu sur un plan horizontal, en nous rendant dans un édifice ou vers un homme, mais nous regardons vers le ciel, et nous allons directement à Dieu en passant par Christ. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, nous disent les saintes Écritures. Vous pouvez le lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Mes amis, où vous situez-vous par rapport au tabernacle? Devez-vous venir à l'autel d'airain pour être sauvé? Bien des gens, même des membres d'Église, n'y sont jamais venus. Êtes-vous un chrétien souillé par le péché, qui doit venir à la cuve pour se confesser et être purifié? Marchez-vous dans les ténèbres? Pénétrez dans le lieu saint, et marche à la lumière du chandelier d'or. Peut-être que votre vie spirituelle laisse à désirer, et que vous avez besoin d'aller à la table des pains de proposition afin d'être nourri. Peut-être que vous ne percevez plus de chaleur dans votre vie de prière, et qu'il vous faut venir à l'autel des parfums. Peut-être avez-vous des ennuis, et vous avez besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors, venez au propitiatoire. Il y en a un pour vous aujourd'hui. Allez à Dieu et acceptez l'aide dont vous avez besoin. Dieu veut vous bénir et vous guider. Et aujourd'hui, tout cela se trouve en la personne de Christ. Faites un pas par la foi. Placez-y toute votre confiance. Rapportons-nous au Nouveau Testament pour découvrir cette réalité, cette vérité, au sujet de l'existence d'un tabernacle céleste. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 16. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Chers amis, voilà la réalité concernant notre destinée éternelle. Seul Jésus-Christ peut intervenir. Il est le seul moyen par lequel vous pouvez avoir accès à Dieu. Par la foi, allez vers lui. Placez-y toute votre confiance concernant votre vie présente et pour votre éternité. C'est le don de Dieu. Chers amis, pour la prochaine émission, préparons-nous en lisant Exode, chapitre 38.
Merci beaucoup, Régin. C'est tellement beau de voir l'attitude de ceux que Dieu avait choisis pour la construction du tabernacle. Ils le servaient de bon cœur. Oui, leur cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre de Dieu pour l'exécuter. Mon ami, quelle est l'œuvre à laquelle tu as été appelé pour servir le Seigneur dans son Église? Est-ce que tu y appliques tout ton cœur? As-tu découvert quelle était l'œuvre à laquelle Dieu t'appelait? Sinon, demande à Dieu de te la révéler. C'est sûr qu'il va le faire. On a tous une fonction dans le corps de Christ. comme on a pu le constater dans les dernières leçons. Aussi, est-ce que tu donnes avec joie? L'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7, que chacun doit donner comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'aime donc ce verset-là. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que je trouve vraiment extraordinaire dans l'étude d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut voir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans la construction du tabernacle au temps de Moïse. Et ça fait longtemps, ça. Et ça a été mis en écriture pour notre instruction, pour qu'on puisse mieux connaître ce Sauveur merveilleux que Dieu nous a donné. Réjean nous a donné un enseignement concernant l'autel d'airain. Il disait que ça illustrait la croix de Christ, où l'on obtient le pardon de nos péchés. Il a dit que la cuve était l'endroit où on confesse nos péchés pour recevoir son pardon et pour être purifié. On a appris aussi que le lieu saint, c'est l'endroit où on va pour adorer Dieu, par la confession, la louange, les remerciements, l'intercession. Puis on a vu que le lieu très saint illustre Jésus-Christ en présence de Dieu, là où il nous invite au trône de sa grâce pour obtenir sa miséricorde, son pardon. As-tu besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu en ce moment? Es-tu un chrétien qui s'est éloigné de Dieu? Reviens-lui. Je suis certaine que tu ne peux pas être heureux, que tu ne peux pas être heureuse si tu n'es pas près de ton Dieu. Reviens à Dieu. Il va t'accueillir à bras ouverts, comme l'enfant prodigue quand il est revenu à son père. Si tu es réellement repentant et désireux de reprendre une bonne relation avec lui, c'est certain qu'il va ouvrir ses grands bras d'amour, qui va t'accueillir, qui va te serrer dans ses bras. Et pour toi qui n'es pas encore un enfant de Dieu, reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu es sans Dieu dans le monde. Viens à Jésus, aujourd'hui, en ce moment même, je t'en supplie. Ses bras sont tendus vers toi pour t'accueillir, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Il y a 2000 ans, les bras de Jésus étaient étendus sur la croix, alors qu'il payait en entier la dette de ton péché. Repens-toi et dis-lui que tu n'es pas capable de te détourner de ta vie de péché sans son secours. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois de tout ton cœur en lui et en son œuvre sur la croix, c'est certain que tu vas être sauvé.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.